Depuis mars, Radio Présence se mobilise en proposant des éclairages hebdomadaires sur les questions de bioéthique en vue de la révision de la loi qui aura lieu à l'automne. Grégoire Jahan, le délégué de Haute-Garonne d'Alliance Vita, a accompagné notre réflexion pendant toute cette séquence. Notre deuxième volet sur l'embryon humain d'aujourd'hui vient la clôturer. Bonjour Grégoire Jahan.
Bonjour Isabelle Honneil.
C'est notre dernière aujourd'hui, Grégoire. Merci de nous avoir accompagnés pendant tous ces mois. Nous avons vu la semaine dernière les évolutions législatives qui ont posé les débuts, les fondements des recherches sur l'embryon humain. Évolutions législatives qui tendent, on l'a vu, à aller vers de plus en plus de recherches. Nous avons effleuré la question éthique. Jusqu'où aller sans utiliser l'embryon humain comme un matériau de recherche ? Aujourd'hui, avant d'y revenir, on va rappeler un petit peu ce que nous avons vu la semaine dernière. L'embryon, c'est quoi déjà, Grégoire Jahan ?
L'embryon, c'est ce que nous avons tous été, c'est la première cellule, enfin, et les premières cellules qui contiennent toute notre unité et notre unicité, et en particulier tout notre ADN, c'est ce qui a lieu finalement après la fécondation et dans le développement avant d'atteindre le stade de fœtus.
Qu'est-ce qui est permis aujourd'hui en termes de recherche ? Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Alors, ce qui est permis en France, c'est des recherches dans le cadre thérapeutique. En cas d'avancée majeure pour des progrès thérapeutiques.
Alors la loi qui sera révisée à l'automne risque de remettre le travail sur le métier. Qu'est-ce qui pourrait changer dans la loi ? Quelles sont les principales revendications et par qui sont-elles portées ces revendications ?
Alors, il y a beaucoup de revendications des chercheurs, déjà d'avoir accès de manière plus large aux embryons congelés, puisqu'il y a plus de 200 000 embryons congelés en France, il y en a 220 000 environ.
Vous nous l'avez dit la semaine dernière, hein, ces embryons congelés, la possibilité de les congeler, ça date de 1994.
Voilà, et ils sont issus donc de la fécondation in vitro, enfin de cadre de la fécondation in vitro, où on crée des embryons. Pour l'instant, en France, par exemple, on n'a pas le droit de créer des embryons. C'est une des premières, une des revendications.
Qu'est-ce que
pour
vous
la
voulez
recherche.
Dire de créer des embryons ?
On n'a pas le droit de créer des embryons pour la recherche.
Autrement que pour un projet parental.
C'est ça, et ça doit être la fin d'un projet parental qui fait devenir, d'ailleurs, qui fait changer le regard de l'embryon, qui d'abord est un projet parental, un enfant potentiel, et ensuite un matériau pour la recherche, ce qui est extrêmement choquant. Donc il y a vraiment déjà le.
Parce que là, le changement de paradigme, on peut dire, hein, c'est quelque chose qui est revendiqué, fabriquer des embryons pour une autre fin que pour. Un projet parental. C'est quelque chose qui pourrait être dans la nouvelle loi ?
Alors, c'est quelque chose sur lequel plutôt il faudrait se protéger, puisqu'il y a la possibilité de créer des. Il y a les possibilités qui se deviennent de plus en plus. Qui se matérialisent de plus en plus chaque jour, de la création de gamètes artificiels, c'est-à-dire à partir d'une cellule, ce qu'on appelle somatique, c'est-à-dire d'une cellule, n'importe laquelle de notre cellule du corps, on est capable de revenir par ce qu'on appelle les cellules IPS, c'est les cellules souches à potentiel induite. Qui permettent pour chacune des cellules de revenir à un état de cellule souche, une cellule indifférenciée, et qu'on peut ensuite retransformer dans n'importe quel autre type de cellule, et en particulier des gamètes. Donc très simplement, c'est-à-dire que le projet, ce serait de pouvoir prendre une cellule de votre peau et d'en faire devenir un spermatozoïde ou un ovule.
Ça, c'est une des revendications, un axe de la recherche. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez des possibilités de voir le jour et d'être inscrit, sacralisé par la loi ?
Alors oui, ça deviendra possible. Et ce qui est important, c'est de s'en protéger. Parce que ce qu'on voit actuellement dans le monde, et c'est parce que le sujet de la recherche sur l'embryon, c'est un sujet de l'humanité et non pas uniquement français, c'est qu'il est important de se protéger. Et tout ce qui est, toutes les dérives éthiques qu'on observe dans le monde le sont dans des pays qui ne se sont pas protégés vis-à-vis de la recherche sur l'embryon.
Et alors, ils ne se sont pas protégés, qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, par exemple, actuellement, au Mexique, on a eu les premières FIV trois parents, c'est-à-dire la création d'un embryon avec justement deux ovules, finalement deux mères, et un père qui a permis de créer finalement une sorte d'un bébé OGM, génétiquement modifié, parce que justement la loi mexicaine ne le permettait pas. Ce bébé a vu le jour, il y en a eu en Ukraine aussi depuis. Derrière, il y a en Chine, où il y a beaucoup de recherches sur le séquençage génomique des personnes à QI de plus de 150 pour essayer de trouver les gènes de l'intelligence et de les intégrer par des techniques, je pense en particulier à la technique des ciseaux génétiques qui s'appelle le CRISPR-Cas9, qui permet de modifier des bouts d'ADN et pour pouvoir l'échanger quel qu'on le soit. Et il y a des recherches actuellement en Chine pour créer des embryons comme ça. Cette technique du CRISPR-Cas9 est aussi utilisée en Angleterre.
Redites-nous un petit peu en quoi consiste le CRISPR-Cas9.
Voilà, donc le CRISPR-Cas9, donc c'est un éditeur génétique, c'est-à-dire qu'il faut imaginer notre ADN comme un texte, et dans lesquels on pourrait, avec un traitement de texte, sélectionner les mots qui nous intéressent et les modifier par d'autres, faire une sorte de CTRL-X, CTRL-V, avec une autre...
Ce CTRL-X, CTRL-V, il est autorisé dans certains pays, la Chine, nous dites-vous, hein, voilà. Entre autres.
L'Angleterre aussi, mais pas pour les embryons qui sont utilisés, sont ensuite détruits, ils ne voient pas le jour. Mais en revanche, on voit très clairement le glissement et il y a une demande très forte de la recherche là-dessus.
Chez nous aussi en France, certains chercheurs demandent cet accès possible au CRISPR-Cas9 qui existe déjà ailleurs.
Alors le CRISPR-Cas9 peut être utilisé dans le cadre de n'importe quelle cellule, mais demande à l'utiliser sur l'embryon, oui, il y a une demande de la recherche pour justement ne pas perdre, ne pas être en retard. Or, je pense que la France, et c'est le mérite de la France ne doit pas s'aligner sur le moins-disant éthique. Nous n'avons pas vocation à être des docteurs Frankenstein qui créent des bébés génétiquement modifiés ou bien d'utiliser les embryons comme des cobayes. Comme aux États-Unis, où récemment, il y a 3 semaines, un article a eu lieu sur où ils ont fait des essais avec un embryon humain, en essayant de mixer un embryon humain et un embryon de poulet. L'embryon s'est développé, il a été détruit après. Mais quel est le but de cette recherche ? Où en est-on ? Et c'est contre ça qu'il faut se protéger, et il faut se protéger de manière, j'ai envie de dire, plus large que la France. La France doit porter ce message à l'humanité.
Mais où on fixe la limite, Grégoire Jahan ? À quel moment on se dit stop, là on bouge plus le curseur ?
Je pense qu'il est déjà dans le regard qu'on porte sur l'embryon, et à partir du moment où on le voit comme un matériau, comme une potentialité et non plus comme une personne...
Mais la vision comme un matériau, on l'a dès lors qu'on a autorisé la congélation. Je reviens à ce que je vous opposais la semaine dernière.
C'est en effet, la boîte de Pandore potentiellement a été ouverte ici, avec et quelque part souvent des bons sentiments qui ont pu porter, en effet, l'idée de vouloir lutter contre une partie thérapeutique. Mais on s'aperçoit que le glissement, il est à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à essayer de se dire non, on arrête, on pose, on fait des moratoires et là on se pose des questions éthiques.
Et alors les arguments avancés pour poursuivre toujours plus la recherche sur l'embryon, c'est effectivement l'avancée de la science et la résolution de certaines maladies. Est-ce qu'il y a des alternatives ?
Oui, donc les alternatives, il en existe pour faire des recherches.
Est-ce que c'est pas par là qu'il faudrait explorer pour pouvoir contrer ces avancées ?
Et initialement, dans la loi de 2004, c'était justement les recherches sur l'embryon n'étaient que en cas d'extrême recours. Et on s'aperçoit que les résultats de recherche sur l'embryon prouvent peu de choses en plus par rapport à d'autres techniques, en particulier les recherches liées avec les cellules souches qui sont issues de la moelle épinière ou du cordon ombilical.
Recherche sur l'embryon, où fixer la limite ? Quelle vision avons-nous de l'embryon humain ? Voilà, c'était toutes les questions que nous avons voulu apporter aujourd'hui. Grégoire Jahan, c'est notre dernière. Avant de se quitter, je voudrais vous dire un grand merci au nom de Radio Présence et de tous ses auditeurs. Vous nous avez accompagnés pendant cette longue série. Vous nous avez permis d'éclairer nos consciences. Je ne vous dis donc pas à la semaine prochaine, mais qui sait le sens dans lequel iront les débats. Nous aurons peut-être l'occasion de nous recroiser et peut-être viendrez-vous nous faire profiter de vos éclairages. Un grand merci.
Merci Isabelle Honneil.